On se retrouve demain.
Vous écoutez RFI, la radio du monde, couleur tropicale en direct d'Anoumabo pour le FEMU à 17. Il est 21h en temps universel et à Anoumabo, 23h à Paris et 24h en France. Tout de suite présenté par Christophe Paget.
Bonsoir Claudie, bonsoir à tous et à toutes. Il est minuit très exactement à Paris et bienvenue hein, évidemment dans cette demi-heure d'information consacrée à l'actualité française, c'est 24h en France. Une commission franco-haïtienne d'historiens va se pencher sur la très lourde indemnité financière imposée par la France à Haïti, son ex-colonie. Annonce faite ce jeudi par Emmanuel Macron qui pour le moment ne parle pas de contrepartie financière. La présidente de la conférence des religieux et des religieuses de France demande l'ouverture de toutes les archives sur l'abbé Pierre, y compris celles du Vatican. Le Vatican qui, selon un livre enquête publié ce jeudi, était au courant des violences sexuelles commises par le prêtre depuis 1955. Le gouvernement présente 10 mesures pour pacifier les rapports entre les agriculteurs et l'Office français de la biodiversité, la police de l'environnement en France, qui est la cible d'une partie des agriculteurs. Mais les syndicats de l'OFB parlent de mesures néfastes pour le respect du droit de l'environnement.
24 heures en France.
Dans une douzaine de minutes, rendez-vous avec le plasticien tchadien Doff qui expose à Paris. Et puis dans le journal de l'Outre-mer, direction la Nouvelle-Calédonie, le port autonome de Nouméa. Le gouvernement local veut en faire un véritable carrefour stratégique.
RFI.
Nous sommes le 17 avril 1825. Sous la menace des canons de la flotte française, les nouvelles autorités d'Haïti acceptent de payer 150 000 francs or en échange de la reconnaissance de leur indépendance par la France. Pour s'en acquitter, Haïti s'endette alors à des taux très élevés auprès des banques françaises. C'est ce qu'on a appelé la double dette et le paiement durera jusqu'en 1952. Deux siècles plus tard, aujourd'hui, ce jeudi 17 avril 2025, Emmanuel Macron a pour la première fois reconnu que la mesure exigée par Paris était injuste. Le président français a aussi annoncé la création d'une commission pour en examiner les impacts. Alors qu'en pensent les politiques français? Aurélien Devernois.
Ce communiqué constitue une avancée incontestable.
Pierre Urmic ne peut que saluer la décision présidentielle. Dans une tribune co-signée avec ses collègues de Nantes et de La Rochelle, le maire de Bordeaux appelait en effet jeudi matin à une action concrète de l'Élysée, mais l'élu écologiste aurait voulu que le mandat de la commission aille plus loin que le simple travail historique annoncé.
Elle doit dépasser ce cadre-là en incluant aussi des approches économiques, juridiques, sociales, culturelles, écologiques, pour éclairer les séquelles lourdes qu'Haïti porte aujourd'hui.
Une demi-annonce regrette également Gabrielle Catala, la députée insoumise, présidente du groupe d'amitié France-Haïti à l'Assemblée, juge même que les termes employés par le chef de l'État posent problème.
Ça se voit d'ailleurs dès le premier paragraphe où il est mentionné qu'Haïti a été soumise aux forces de l'histoire, comme si c'était une cause extérieure et pas la France monarchique puis impériale qui avait pillé Haïti.
Et si à titre personnel, la députée est contre les réparations financières, elle s'interroge sur l'influence haïtienne dans la future commission.
Je me demande si l'État haïtien a été associé à cette annonce. Haïti avait déjà une commission indépendante qui a mis en place un certain nombre de recommandations qui vont d'ailleurs même jusqu'au remboursement.
Prudence donc après la déclaration présidentielle, d'autant qu'Emmanuel Macron n'a fixé ni calendrier, ni engagement à suivre les recommandations que rédigera la commission.
Aurélien Devernois, de nouvelles révélations dans le scandale des violences sexuelles qui vise l'abbé Pierre, le prêtre français, célèbre pour sa défense des plus pauvres et aujourd'hui décédé. Dans un livre enquête paru ce jeudi, deux journalistes de La Croix et de Radio France affirment que d'une part, le Vatican était au courant des agissements de l'abbé Pierre depuis 1955 et que de l'autre, l'Église de France avait bien été alertée. La Conférence des évêques de France parle de révélations très graves. Laurence Théo.
La Conférence des évêques de France précise qu'elle n'avait pas connaissance des éléments qui figurent dans l'ouvrage et qu'elle n'en trouve pas trace dans ses archives. Elle va donc se rapprocher du Vatican et convient que c'est une bonne chose que la vérité puisse être faite. De son côté, la présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France réclame l'ouverture de toutes les archives sur l'abbé Pierre, y compris celles du Vatican, pour permettre aux chercheurs de travailler sur ses agissements et l'impunité dont il a bénéficié. Dans leur livre, les deux journalistes sont formels. Dès l'automne 1955, le haut clergé français connaissait la face noire et la dangerosité de l'abbé Pierre. Et avec cette nouvelle révélation, l'hypothèse d'une protection sciemment organisée en France se confirme. Les autrices qui ont retrouvé la trace d'une réunion consacrée à l'abbé rapportent en effet qu'une procédure judiciaire avait été freinée par les évêques de France, puis enterrée 2 ans plus tard, en 1957. Par ailleurs, un courrier daté de 1955 a été envoyé à l'évêque de Versailles en poste à l'époque, lequel répond que les faits ne sont pas si graves et surtout que l'abbé dispose d'une telle aura en France qu'il vaut mieux ne pas bouger. Il parle d'un symbole qui galvanise à la manière d'un prophète.
Gisèle Pellicot va porter plainte contre Paris Match. Le magazine a publié 7 photos volées de la victime des viols de Mazan, où elle est accompagnée d'un homme présenté par le magazine comme son compagnon. Sur le fond, a expliqué son avocat, c'est très choquant, vu qu'il s'agit d'une femme dont le consentement a été nié pendant 10 ans et dont le calvaire a été rappelé par les quelques 3000 photos et vidéos prises à son insu. Faire l'objet après ça d'une paparazzade, c'est n'avoir rien compris à ces 5 mois de procès, a insisté Maître Camus.
24 heures en France.
L'industrie chimique française tire la sonnette d'alarme. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis pourrait détruire jusqu'à 200 000 emplois en Europe. Estimation de la Fédération France Chimie, son président s'inquiète de voir les produits chinois et américains de la chimie inonder l'Europe et donc fragiliser l'industrie française et européenne. Frédéric Gaucher.
Ces barrières douanières et ces tensions entre les deux plus gros clients du monde de la chimie vont entraîner un effet récessif. Cet effet récessif va accentuer le fait qu'il y a aujourd'hui une surcapacité et donc on estime qu'il va y avoir un surplus d'une 15 milliards de produits chimiques qui vont pas trouver preneur côté Chine et à 10 milliards du côté des USA. Et donc ces produits vont chercher désespérément de nouveaux clients. Quand il y a une surcapacité dans l'industrie, cela se traduit in fine par des fermetures d'usines. Et bien entendu, les usines qui ferment en premier sont celles qui sont les moins compétitives. Et c'est là où on est très inquiet.
Frédéric Gaucher, joint par Nicolas Feldman. Pacifier les rapports entre les agriculteurs et l'Office français de la biodiversité, c'est l'objectif des 10 mesures présentées aujourd'hui par le gouvernement. Car l'OFB, la police de l'environnement en France, est la cible d'une partie des agriculteurs. Plusieurs de ces sites ont fait l'objet de dégradations depuis plus d'un an. Mais les syndicats de l'OFB sont unanimes. Les nouvelles mesures sont néfastes au respect du droit de l'environnement. Juliette Pietraszewski.
Parmi les 10 mesures annoncées et approuvées par le Premier ministre, le déploiement, je cite, du port d'armes discrets pour les contrôles administratifs dans les corps de ferme. C'était l'une des principales demandes des syndicats agricoles depuis la crise de début 2024. Autre mesure, la mise en place d'adresses électroniques pour dénoncer des contrôles de l'OFB présentés comme problématiques. Alors que moins de 1% de ces contrôles ont été source de conflits depuis la création de l'Office français de la biodiversité, rappelle le syndicat UNSA Écologie. Le gouvernement insiste aussi sur des échanges régulier entre le réseau des chambres d'agriculture et l'OFB au niveau national, régional et départemental. Pour Vincent Vauquelin, co-secrétaire adjoint du syndicat CGT Environnement, ces mesures font beaucoup trop de concessions au monde agricole.
Il n'y a pas de choses demandées au monde de l'agriculture. Donc c'est très asymétrique, alors que l'OFB n'est pas du tout en faute, c'est-à-dire que les agents font leur métier, ne ciblent pas spécialement le monde agricole, ont des obligations de constat des infractions, quelles qu'elles soient, quels que soient les contrevenants éventuels. Et les agriculteurs n'ont jamais été capables de dire et de montrer que tel contrôle avait été conduit de manière inappropriée ou fautive de la part des agents.
L'intersyndicale appelle également le gouvernement à maintenir des moyens humains et budgétaires de l'OFB en 2025.
Juliette Pietraszewski. On passe au tennis. À Roland-Garros, le célèbre tournoi du Grand Chelem sur terre battue, c'est à Paris et c'est dans un peu plus de 5 semaines. Ce jeudi, les organisateurs ont confirmé qu'un hommage sera rendu au retraité Rafael Nadal, qui était un habitué du tournoi. Il en a 14 fois soulevé la coupe. Hommage sera rendu aussi à Richard Gasquet, qui rangera sa raquette pour de bon après Roland-Garros, justement. Et puis à Mary Pierce, la dernière Française à avoir gagné Paris, c'était en 2000. On écoute Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi, pour qui célébrer la carrière de Nadal sur la terre battue parisienne était une évidence.
C'est une envie qu'on avait déjà l'année dernière et qu'on n'a pas pu mettre en place de lui rendre hommage à cette histoire hallucinante qu'il a avec le tournoi de Roland-Garros et ses 14 victoires. Donc plein de belles choses et on espère que ce sera un moment surtout d'émotion. Je dirais d'abord pour lui, parce qu'il le mérite, et puis évidemment pour tous les gens qui sont dans le stade. Ensuite, il y a Marie, elle a gagné en 2000. En 2020, c'était l'édition Covid, donc les 20 ans de sa victoire n'avaient pas pu être fêtés. Et surtout aussi son entrée au Hall of Fame l'année dernière. on a voulu lui rendre hommage. Donc ce sera entre les deux demi-finales femmes. Et puis Richard, évidemment, toute son histoire depuis tant d'années à Roland-Garros, on a envie, il l'a dit, ça allait être son dernier tournoi. On a envie de lui rendre hommage et de faire un petit moment aussi d'émotion pour lui.
Direction maintenant le printemps de Bourges qui bat son plein dans le centre de la France jusqu'à ce dimanche. Ce soir, le festival a rendu hommage à la diva égyptienne Oum Kalsoum, disparue il y a 50 ans, avec une création baptisée « La Voix des Femmes ». Sur scène, il y avait notamment Natacha Atlas, Camélia Jordana, Souad Massi. Cette création avait été confiée à l'artiste libanais Zeid Hamdan, un pionnier des mélanges entre tradition orientale et pop électronique. Envoyé spécial à Bourges, Edmond Sadaka.
Revisiter l'œuvre d'Oum Kalsoum en mode électro est un pari audacieux. Principal défi, la durée des chansons. Zeid Hamdan.
De 40 minutes à 1 heure chacune, c'était une barrière pour moi. Et avec ce projet, j'ai dû me plonger en profondeur. Et donc, je pense que j'ai communiqué une forme qui est accessible à un public non initié.
Côté casting, 7 artistes, dont 2 rappeurs, Daniil et Runa. Tous ont dit oui tout de suite. Jean-Michel Dupas, directeur artistique du Printemps de Bourges.
Souvent, quand on lance une création, on a affaire à des refus. C'est bien la première fois que c'est une création. Dès qu'on a proposé le projet, on a eu des oui hyper enthousiastes.
Parmi ces oui enthousiastes, celui de Camélia Jordana. La chanteuse reprend l'une des chansons phares d'Oum Kalsoum, Enta Omri.
J'ai l'arabe dans l'oreille depuis petite, donc je peux faire tous les sons en arabe. C'est plutôt que c'est une vraie science, en fait, de chanter l'arabe égyptien. Et Oum Kalsoum, cette science-là, elle la maîtrisait mieux que personne.
3 artistes masculins partagent aussi l'affiche de voix de femmes, dont le musicien égyptien Abdullah Minyaoui. Après Bourges, la création sera le 14 juillet au Festival d'Avignon, dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Edmond Sadaka, Bourges, RFI.
La voix de la chanteuse égyptienne Mariam Saleh. RFI, minuit 11, à Bourges.
24 heures en France. Christophe Paget.
Nous avons maintenant rendez-vous avec le plasticien tchadien Dof. Il présente à Paris sa première exposition monographique, c'est-à-dire qui lui est entièrement consacrée. Et c'est la violence qui est le sous-texte de cette exposition, comme elle l'est de toute son œuvre qu'il construit dans son atelier à N'Djamena. Depuis son indépendance en 1960, le Tchad a connu 2 coups d'État et 3 guerres civiles. Dof, au micro d'Isabelle Chenu.
Bonjour Dof.
Bonjour.
Alors de votre vrai nom Apollinaire Guidimbaï, vous êtes un plasticien, un artiste tchadien. Vous vous exposez en ce moment à la galerie Valois, rue de Seine, à Paris. Vous vous êtes fait connaître en utilisant les matériaux recyclés et notamment des douilles de balles.
Le choix des douilles de balles, c'est pour essayer dans mon travail de faire une métaphore pour parler de la paix, surtout de ne pas voir le sens premier des douilles, mais de voir toutes ces populations qui souffrent par tout ce qui a été construit par des douilles de balles, pour dire qu'il y a un peuple qui aspire à la paix, il y a un peuple qui veut son bonheur.
Dans toutes vos œuvres, en fait, il y a un sous-texte, que ce soit celles qui sont fabriquées à partir de ces douilles de balles ou vos œuvres noires dont vous allez nous parler.
L'expo, c'est 3 étapes de mon travail qui sont réunies. Aujourd'hui, on se dit tout ce qui est noir, c'est de la négation. Mais moi, je dis non, au-delà du noir, on voit de la lumière. Et ça va dans le sens de la jeunesse aujourd'hui qui essaye de sortir de ce trou noir pour briller.
Le noir aspire la lumière, mais aussi il y a beaucoup de lumière dans le noir. C'est ce qu'on peut voir sur vos grandes toiles, que vous travaillez avec un matériau assez spécifique.
Il s'agit du Paxalu. Généralement, c'est un matériau qui est utilisé pour l'étanchéité des toitures terrasses. Quand je le travaille, je découvre toujours des nouvelles choses autour de ce matériau.
Vous le brûlez, vous le transformez, il prend d'autres formes, d'autres textures, d'autres couleurs, vous rajoutez des éléments.
Mon pinceau, c'est un chalumeau. Tout est fait au chalumeau, les découpes, les textures, les nuances de noir.
Vous parliez d'Off, de la jeunesse de votre pays. Vous êtes un artiste autodidacte. Même si dans la famille, il y avait quand même déjà un sens artistique, vous travaillez à N'Djamena avec des jeunes.
Oui, on n'a pas d'école de beaux-arts comme dans d'autres pays, mais on espère bien que d'ici là, ça se fera. Et aujourd'hui, dans l'atelier, nous avons 15 jeunes dont nous avons commencé une résidence de création depuis octobre de l'année passée qui se déroule sur un an sous la direction artistique d'un ami artiste camerounais qui s'appelle Yvon Gassam. Et on essaye de tenir la main aux jeunes.
Si vous deviez, Dof, qualifier en quelques phrases ce qui définit votre art, vous diriez quoi ?
La protection, déjà, parce que ma démarche artistique, elle est centrée sur l'écologie. J'aime pas trop le mot recyclage parce que ça fait la mode. Redonner une nouvelle vie aux matériaux qui sont pas nobles et aussi parler pour les sans-voix. Parce qu'aujourd'hui, dans mon travail, surtout sur la série « Défaire le fer », je me mets à la place de ces jeunes, des jeunes enfants. Aujourd'hui, il y a 400 millions d'enfants qui naissent dans les pays en guerre. Je me pose souvent cette question, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Le Soudan, Gaza, l'Ukraine, ils sont dans mon travail. Je m'inspire beaucoup de mon pays, mais ça va au-delà de mon pays. Mon travail, il est universel. Il n'est pas que tchadien, il n'est pas typique.
Merci beaucoup, Dof.
C'est moi qui vous remercie.
Dof au micro d'Isabelle Chenu. Son exposition est à voir à la Galerie Valois à Paris jusqu'au 26 avril. Et du Tchad, on passe au Nigeria, mais toujours à Paris, puisque Burna Boy est en concert ce vendredi au Stade de France. Cet artiste nigérian est le premier chanteur africain à s'y produire et il fait presque salle comble, enfin stade comble plutôt. Burna Boy s'est fait connaître en 2012 avec le tube « Like to Party ». Depuis, il a conquis la planète en participant à la popularisation de l'afrofusion, qui s'inspire de l'afropop, du reggae et de la soul. Comme toutes les stars internationales, Burna Boy a de nombreux fans à travers le monde. Tanita Fallet a passé une après-midi avec deux d'entre elles qui se rendront demain au Stade de France.
Bonjour. Anna, coiffée de mèches roses, arrive tout juste du Havre, à 3 heures de Paris. Elle enlace son amie Sonia qu'elle n'a pas vue depuis le concert de Burna Boy à Londres en juin dernier.
Alors moi c'est Anna, j'ai 21 ans, je suis étudiante et grande fan de Burna Boy.
Et moi je m'appelle Sonia, j'ai 35 ans et je suis avocate et j'aime beaucoup Burna Boy aussi.
Moi aussi je suis trop contente.
Elles écoutent l'artiste depuis 10 ans. Ensemble, elles l'ont vu à Londres, Berlin et Prague. Anna est même allée
jusqu'aux États-Unis et au Nigeria. Enfin, voilà. Du coup, j'ai fait 3 continents pour voir Burna et j'ai été aussi jusqu'à me tatouer son nom de scène.
Chez elle, Burna Boy, c'est une affaire de famille.
Allô, mamie ? Oui, je suis arrivée.
Sa grand-mère l'accompagne dès que le Nigérian se produit à Paris.
J'ai déjà fait 2 Bercy et la Défense avec ma petite fille, donc déjà c'est déjà des belles fans, mais là ça va être énorme, ça donne envie.
La femme de 67 ans ne va pas s'apprêter, mais pour Anna et son amie, l'apparence est une question centrale.
Quelle tenue ? Faut faire nos ongles avant ?
Faut que je rentre me changer, mais j'aimerais bien y être tôt, donc faut que je trouve une tenue qui me permette d'être confortable, mais aussi quand même sympa pour le concert. Donc j'ai toujours pas trouvé, mais il faut y penser, c'est de la logistique. Hein. J'aime beaucoup cette chanson, les paroles elles sont vraiment bien, elles sont vraiment bien.
Ça raconte quoi comme ça ?
En fait c'était l'histoire par rapport à tout ce qui était colonisation, etc. Oui.
Car Burna Boy c'est aussi un symbole. Il est le premier artiste africain à se produire au Stade de France. Une fierté pour Sonia d'origine tchadienne.
Le Nigeria a une grosse frontière avec le Tchad. Ma famille là-bas commence à écouter, mais globalement comme ça. Et quand je leur ai dit que j'écoutais Burna Boy, ils m'ont dit « Mais comment tu le connais ? Enfin, c'est un artiste du continent, t'habites à Paris, vous écoutez pas ça ?» Je dis « Bah si, on écoute ça, et même jusqu'aux États-Unis. » Donc c'est vrai que ça rajoute aussi ce côté-là de proximité. Ouais. Ça nous a vraiment reconnectés avec nos racines.
Anna espère que Burna Boy la reconnaîtra. À force d'aller à ses concerts, il lui a même donné un surnom, Yemizi, honoré de Dieu en Yoruba, une des langues du Nigeria. Anna a appris à la parler.
Je sais que s'il me voit, il va réagir et ça va vraiment me rendre super heureuse et tout.
Pour le Stade de France, elle a donc pris des places en VIP pour être au premier rang.
It's Plenty, Burna Boy, qui est donc en concert ce vendredi au Stade de France. Le reportage, quant à lui, était de Tanita Fallet.
Le journal des Outre-mer.
Et à la une du journal des Outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, puisque le port autonome de Nouméa va entrer dans une nouvelle ère. Bonsoir Benoît Ferrand.
Bonsoir. Le gouvernement local a en effet dévoilé ce mercredi une feuille de route, l'objectif très ambitieux, rien de moins que de transformer l'actuel port de la Nouvelle-Calédonie en une infrastructure incontournable dans cette région de l'océan Pacifique. Marguerite Poigoun.
Le port autonome de Nouméa ne sera plus seulement un point de transit de marchandises, il deviendra un véritable carrefour stratégique avec des investissements massifs pour accompagner sa transformation. Samuel Népéoun, membre du gouvernement en charge du secteur maritime.
Le port de la Nouvelle-Calédonie, quand on parle de Singapour par exemple, qui est la porte d'entrée de l'Asie, pourquoi la Nouvelle-Calédonie ne serait pas la porte d'entrée du Pacifique ?
Dans le but d'accélérer sa transformation, 5 axes de développement stratégique ont été actés, dont voici quelques-uns, Samuel Népéoun.
La première, assez naturellement, c'est la modernisation de la partie commerciale. Mais parmi les sujets, on va dire, qui sont un peu novateurs, mais qui sont dans la logique du développement du port, c'est le développement de la croisière. Un projet qui est hyper novateur, c'est la mise en place d'une base scientifique. On a une forte demande de pouvoir baser des navires scientifiques en Nouvelle-Calédonie. Un des gros chantiers sur lequel la Nouvelle-Calédonie travaille depuis des années, c'est le chantier de déconstruction des navires et d'un vrai pôle de maintenance en Nouvelle-Calédonie.
Un nouveau terminal croisière est ainsi prévu pour 2028 et la gare maritime actuelle sera réaménagée dès 2026. Et enfin, le projet RENAC, raccordement électrique des navires à quai, prévoit de raccorder les navires à l'électricité à quai pour limiter les émissions polluantes, une nouvelle étape dans l'intégration du port à la ville et dans la transition écologique.
Du maritime, on passe à l'aérien avec ce nouvel épisode du feuilleton Piste Longue à Mayotte. Alors que le projet de construction d'un nouvel aéroport en grande terre semblait plus ou moins dans les tuyaux ces derniers temps, les élus du conseil départemental, bien encouragés en ce sens par un certain nombre de personnes présentes, ont voté ce jeudi matin l'allongement de la piste existante et donc le maintien de l'aéroport en petite terre, un vote qui va être désormais transmis au gouvernement. Hassan Moulara est le président du groupement des entreprises du tourisme de Mayotte. Il est au micro de Nadia Ali.
Moi, ma réaction ne peut être que positive, parce qu'on commençait à nous tourner en bourricot. Là, dernièrement, parce que c'est ça qu'on allait essayer de convaincre nos élus. Parce que quand il y a eu le ministre de Outre-mer qui était passé, quand la question lui était posée, il dit non, c'est plus l'affaire de l'État, c'est à vos élus. Là, aujourd'hui, ils ont compris, ils ont été convaincus. Je ne vois pas comment l'État va se retourner contre cette décision qui a été prise ce matin. Moi, je pense que quand on arrive à Pamandzi, on dit, oh non, là, je suis juste de passage. Mais quand j'étais à Mamoudzou, je dirais que je suis arrivé à Mayotte. Je pense que l'aéroport, c'est le seul produit qui nous reste pour le développement économique de la petite terre.
Un sujet qui sera sans doute abordé avec Emmanuel Macron. Le chef de l'État entame ce lundi une tournée dans le sud de l'océan Indien, Mayotte d'abord, puis La Réunion, Madagascar et enfin l'île Maurice. Peut mieux faire, les chiffres publiés par l'AFD, l'Agence française de développement, dans son observatoire des communes de la Guadeloupe ne sont pas forcément très flatteurs pour les 32 municipalités de l'archipel. Cela concerne en particulier le poids très lourd des charges de personnel. Peggy Robert.
Première particularité, les 32 communes de Guadeloupe se distinguent par le montant de leurs recettes de fonctionnement. 1 851 € par habitant, c'est le montant le plus élevé parmi les départements et régions d'outre-mer. Ces recettes de fonctionnement permettent de financer, entre autres, les dépenses de personnel. Et outre-mer, c'est encore en Guadeloupe que ces dépenses sont les plus élevées. Les communes consacrent 68%, soit plus des deux tiers de leurs recettes, aux frais de personnel et c'est quasiment deux fois plus que dans l'Hexagone. Problème, qui dit dépenses de personnel élevées, dit moins de ressources pour investir. Alors comment font-elles ? Les communes de Guadeloupe ont en fait un recours important aux subventions d'investissement. Mais de l'autre côté, elles empruntent peu. Du coup, elles ne sont pas très endettées, selon l'AFD. Enfin, si les communes de Guadeloupe ont réalisé des dépenses d'équipement dans la moyenne outre-mer, on ne peut pas en dire autant pour les 6 communautés d'agglos de la Guadeloupe. Ce sont celles qui ont le moins investi pendant les 5 dernières années. Pour l'AFD, il y a là, en Guadeloupe, un enjeu pour mieux porter les politiques publiques locales.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Bonne soirée, Benoît Ferrand.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
Avec le Conseil Santé, on va s'intéresser ce soir à la leptospirose. C'est une maladie bactérienne particulièrement redoutable pour la santé rénale. Quelles sont les activités ou habitudes à éviter? Quels sont les symptômes qui doivent alerter? Caroline Paré nous explique tout ça avec son invité.
Mathieu Picardo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable de l'unité biologie des spiroquettes et du Centre national de référence de la leptospirose à l'Institut Pasteur à Paris. Pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de la leptospirose, de quoi s'agit-il?
Alors la leptospirose, c'est une maladie, c'est une infection bactérienne qu'on va retrouver principalement dans les régions tropicales, mais pas que, on en trouve aussi ici en France, en métropole. C'est une zoonose aussi, donc c'est une maladie qui est transmise par les animaux, principalement les rongeurs. Et ça fait partie de cette catégorie de maladies qu'on appelle les maladies négligées tropicales, parce que c'est des maladies qui sont pour lesquelles il y a peu d'équipes qui travaillent sur le sujet, par manque de financement principalement.
Et si on parle de la prévention de la leptospirose, c'est quoi les messages essentiels?
Alors, déjà, il faut savoir que c'est une maladie, comme je vous l'ai dit, bactérienne, donc qui se traite très bien aux antibiotiques. Il n'y a pas de résistance connue aux antibiotiques pour cette bactérie. Donc, la prévention, donc la principale voie de transmission, c'est le contact de l'environnement humide, hein, donc l'eau douce principalement, qui est contaminée par l'urine de réservoirs animaux, principalement les rongeurs. Donc c'est lors de baignades ou d'expositions ou suite à des inondations, des expositions à l'eau contaminée par l'urine de rongeurs qu'on peut attraper la leptospirose.
Merci beaucoup Mathieu Picardo. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on va parler des allergies. Une proportion de plus en plus importante de la population est concernée. On va parler des facteurs d'allergie, des symptômes, des prises en charge qui permettent de limiter la survenue des crises pour améliorer la qualité de vie. C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel, à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Merci Caroline Paré. C'est la fin de 24 heures en France. Enfin, dans quelques instants, 24 heures en France que vous pouvez réécouter, vous le savez, comme tous nos autres journaux, sur notre site www.rfi.fr ou sur RFI Pure Radio. Merci au duo de choc, Fabrice Violet à la réalisation et Charlotte Derouin à la rédaction en chef. Dans quelques instants, c'est Afrique Soir, mais avant cela, on part, comme tous les soirs évidemment, à New York pour la bourse.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et c'est avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones chute de 527 points et retombe à 39 142. L'indice du Nasdaq cède 20 points et revient à 16 286. La chute du Dow Jones est exagérée par la pondération de United Health dans l'indice des 30 valeurs industrielles. Le cours du géant de l'assurance maladie s'effondre de quelque 22%. United Health révise à la baisse ses perspectives de résultats en raison de coûts plus élevés que prévus dans ses activités d'assureur complémentaire du régime public fédéral américain Medicare. Eli Lilly est à la fête, un gain de 14%. Le laboratoire pharmaceutique rend compte de résultats encourageants pour son traitement expérimental contre l'obésité et le diabète. Eli Lilly est bien parti pour pouvoir commercialiser au plus tôt en 2026 sa pilule du nom d'Orfoglipron qui donne des résultats comparables au traitement par injection aujourd'hui sur le marché, en particulier le traitement de la société danoise Novo Nordisk. Le marché obligataire réagit de manière mesurée aux propos du président Trump selon lesquels la fin du mandat de Jerome Powell à la Fed ne saurait intervenir trop tôt. Donald Trump, comme il l'a souvent fait dans le passé, rompt avec la tradition qui remonte à Gerald Ford, qui veut que la Maison-Blanche ne commente pas publiquement la politique monétaire de la Banque centrale américaine. Le rendement du T-Bond remonte tout de même à 4,33. Le pétrole américain gagne près de 3% et finit à plus de 64 $. L'euro retombe à 1,1372. Aujourd'hui, le Dow Jones perd 1,3%, le Nasdaq s'effrite de 0,1%. Wall Street sera fermée demain. Le vendredi saint est un jour férié pour les marchés financiers américains.
Merci Pierre-Yves Dugas, on vous retrouve la semaine prochaine.
Appel sur l'actualité.
Libre Antenne, Namouri Dosso.
RFI vous donne la parole, où que vous soyez à travers le monde. Rejoignez-nous et lancez le débat sur l'actualité de votre choix, que ce soit en Afrique ou ailleurs sur la planète. Vos commentaires, vos analyses, vos témoignages et vos réactions nous intéressent.
33 9 693 693 70.
Namouri Dosso, avec vous au téléphone demain à partir de 8h10 TU.
RFI.
Les dessous de l'infox, Sophie Malibaud.
On observe sur les réseaux sociaux une recrudescence de messages trompeurs et dangereux sur les vaccins, avec des thèses complotistes alimentées par l'administration Trump. Le spécialiste des virus et des vaccins Frédéric Tanguy de l'Institut Pasteur nous aide à faire le point sur ce sujet critique pour notre santé à tous.
Les dessous de l'infox avec Sophie Malibaud, tous les vendredis à partir de 17h30 TU sur RFI.